Bien, chers amis, merci en tout cas du fond du cœur. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver, de nous retrouver ensemble après des semaines où le Seigneur a permis que nous ayons une épreuve un peu particulière. Mais comme il a été dit, il n'a pas eu la victoire, mon ennemi. Ce qu'il voulait, c'est nous détruire. Essayer de faire en sorte que même nous n'existions plus. Souvenez-vous que le Satan, le diable, est meurtrier dès le commencement. Et il exerce encore son pouvoir maléfique. Nous regardions hier une vidéo qui avait été tournée dans les tranchées en Ukraine. Quelque chose d'épouvantable. Ces chères personnes jeunes qui se font massacrer. Dans quel but, on se le demande. Mais en tout cas, j'avais à cœur de vous lire un verset dans le livre des psaumes. Toi qui nous as fait voir, psaume 71, verset 20, toi qui nous as fait voir de nombreuses et amères détresses, tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter hors des profondeurs de la terre. Je ne suis pas le seul. Vous vous en doutez bien. Plusieurs ici ont connu des moments douloureux dans leur vie, et ça continue. Quelque part, nous disions souvent « Merci Seigneur pour les épreuves », parce que elles nous permettent de nous rapprocher de son cœur. Et quelque part, nous sentons battre son cœur pour moi, pour nous, chers amis. L'ennemi essaie de nous décourager. L'ennemi essaie de nous abattre. Il sait que nous ne perdons pas confiance. Mais son but, c'est d'essayer de nous décourager. Et je vous avouerai que, quelquefois, peut-être même peu souvent, mais il est parvenu à nous décourager. Il sait que nous avons la victoire. Il sait que le Seigneur est vainqueur. Il sait qu'il est, lui, vaincu. Et il a été vaincu par le sang d'agneau. Et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qui nous a fait de croire cela. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Le fait de savoir que le précieux sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et il nous aime au point où il nous fait ressortir d'une situation douloureuse et difficile. Toujours. L'ennemi n'arrivera pas à nous abattre. Le Seigneur est là. Nous l'avons dit souvent, Seigneur, je sais que tu es là, mais est-ce que tu ne te semble pas que c'est un petit peu trop fort? Ce que j'éprouve pour maintenant. Et le Seigneur répond dans sa grâce imméritée. Et c'est sa bonté, c'est sa puissance qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi vos prières, chers amis. Et c'est bien pour cela que je suis là devant vous pour vous remercier vraiment du fond du cœur, parce que vos prières instantes, les uns pour les autres, et continuons à le faire. À une grande efficacité, je vous promets que nous étions bien encouragés de penser que des frères et sœurs de notre petite église de Blény, que nous aimons beaucoup, étaient en prière pour nous. Et qu'est-ce que ça fait du bien dans nos corps, dans nos âmes et dans nos cœurs, de le savoir, mais aussi de le vivre. Alors, mon désir était de vous parler quelques réflexions sur le mot « origine ». Au départ, je voulais vous parler surtout de Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Vous comprendrez par la suite ce que ça signifie. Mais j'aime dire à tout Seigneur, tout honneur. Alors j'ai commencé par notre Seigneur bien-aimé. et ce qu'il nous dit, sa puissance. Et en introduction, je souhaiterais vous donner quelques versets qui me paraissent importants, car il s'agit de révélations que le Seigneur veut nous faire. Et il nous a dit en 1 Corinthiens 2, verset 10, « L'Esprit sonde tout, même les choses profondes de Dieu. » Et verset en Deutéronome 29, 29 nous dit ceci, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à toujours. » C'est encourageant ces deux versets, parce qu'il y a des choses qui sont profondes et que le Seigneur veut quand même nous révéler avec ma petite connaissance, avec ma petite intelligence, avec ma petitesse, mais sa grandeur veut nous élever au-dessus de bien d'autres choses. Alors, en ce qui concerne la création, par exemple, l'origine, est-ce qu'elle a une origine ? La question est posée. Plusieurs disent que, et de monarques, de grands monarques qui nous ont précédés et qui nous suivent, prétendent que l'univers a toujours existé. Nous, nous croyons qu'il a eu un commencement. Et c'est incontestable. Et on peut le prouver. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, il nous est dit au commencement, Dieu créa. Il vaudrait mieux traduire ce début-là par « en un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mais après « créa », il y a une infinité de choses qui ont été déjà établies, mais que nous ne discernons pas. Mais le Seigneur nous révèle plein de choses au travers de sa parole, nous verrons par la suite. Vous comprendrez ce que ça signifie. Et Bereshit, en hébreu, Bereshit, Bara, Elohim, nos frères aînés juifs remarquent que la parole de Dieu ne commence pas par la lettre A de l'alphabet. C'est B, Bereshit, Bereshit. Il y a une raison. Il y a une raison à tout. Et le Seigneur nous entretient dans sa création des cieux et de la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Donc la terre existe depuis l'origine. Qu'y avait-il avant ? Bien des choses, certainement. On peut s'en douter. Et on le verra dans le fil de cette de ce message. Et la terre était informe et vide. Pourquoi est-elle informe et vide ? Et en hébreu, ça peut se traduire par tohu bohu, c'est-à-dire un chaos. Mais qu'est-ce qui a amené ce chaos ? Alors qu'on a un Dieu d'ordre. Et il va le signifier en nous donnant un processus qui s'échelonne sur 6 jours, dit notre traduction. Ce ne sont pas 6 jours de 24 heures. Nous allons voir pourquoi. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Premier jour. Le Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Autrement dit, il n'y avait pas de lumière. Puis la lumière est apparue par la puissante parole de Dieu. Dieu dit. Vous aurez remarqué que Dieu n'a pas créé la lumière. En tout cas, il n'est pas dit ici qu'il créa la lumière. Sa parole seule suffit à créer la lumière. Il n'est dit que 3 fois dans le premier chapitre de la Genèse, créa. Une fois pour créer les cieux et la terre, une seconde fois pour les animaux marins de grande taille, et une troisième fois pour la création de l'homme. Et puis les autres fois où Dieu a fait apparaître des choses qui n'existaient pas, autrement dit, durant les 6 jours de la création, la parole de Dieu suffisait. Et Dieu dit, et la chose fut. Il parla, et elle se tint là. C'est un verset que nous trouvons dans le livre des psaumes. Je pense, si vous vous souvenez, au psaume 33. Dieu a parlé, et la chose a été. Simplement. Simplement pour nous. Quelle grande puissance notre Dieu, c'est le thème du chant que nous avons exprimé tout à l'heure ensemble. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut matin, il y eut soir, il y eut matin, premier jour. Et bien en hébreu, c'est pas premier jour. Ils disent toujours jour, un. Jour, yom, en hébreu. Hehad. Et pourquoi Hehad? Parce que comme Dieu est appelé Dieu unique, Hehad, c'est un mot tout à fait particulier. Parce que premier, jour premier, dans le langage hébreu, c'est Rishon. Et il n'a pas dit Rishon, il a dit Hehad. Comme lui-même, il est unique ce jour-là. Le jour où Dieu a créé la lumière. Et il l'appelle jour. Est-ce qu'on a déjà remarqué que c'est justement l'inverse de la manière dont nous avons l'habitude de compter les jours? Nous aurions dit, il y eut matin et soir, premier jour. Le Seigneur dit, il y eut soir et matin, jour 1. Quelle grandeur nous avons. Et si nous voyons un petit peu la littérature, ou ce que d'autres en pensent, en tout cas, Serge Tarashenko, que d'aucuns connaissent, c'est un Russe, qui était un ingénieur nucléaire, retraité maintenant, mais qui donne des conférences aussi sur YouTube, pour aller constater les choses merveilleuses qu'il donne, ce Serge. Serge, il est d'ailleurs venu, nous sommes allés l'écouter en Belgique, il faisait des conférences depuis de nombreuses années. Et il dit ceci, quand les ténèbres commencent à arriver, elles suivent tout un processus. Quand est-ce qu'il fait noir? Au bout du commencement des ténèbres qui, de petit à petit, se sont épaissies pour devenir une obscurité complète. Combien de temps que ça dure? Nous ne savons pas. Et nous est dit aussi quelque part dans la Bible que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ça ne nous dérange pas du tout que notre Dieu ait fait en 6 jours de 24 heures ou en 6 périodes de milliers d'années sa création. La discussion n'est pas là. Il y en a qui s'écharpent pour discuter et imposer leur vue concernant la création. Mes chers amis, si nous avons un petit peu d'intelligence et si nous tenons au pied du Seigneur et connaissons sa parole et connaissons et approfondissons les choses profondes de Dieu, nous pouvons arriver à des connaissances qui sont vraiment heureuses, en tout cas pour moi. J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur la création. Quand nous sommes loin en France, je dis, il faudrait que je dise ça à mes frères et sœurs, parce qu'il y en a certainement qui aimeraient qu'on leur dise pas mal de choses sur la cosmologie, sur l'astronomie. C'est un petit peu mon dada, vous me pardonnerez, mais il y a tellement de belles choses, mais que je considère comme étant la grande puissance d'un Dieu puissant et riche, celui que nous connaissons. Et qui me fascine, est-ce qu'on peut dire ce mot-là pour notre Dieu, qui me fascine jour après jour, instant après instant, quand j'ouvre sa sainte parole. Et alors je vous parlais de personnes qui sont capables de nous édifier, parce que la parole de Dieu ne nous dit pas tout et la science ne sait pas tout expliquer. Et notamment, j'ai regardé ce document-là sur YouTube, la science rend-elle la religion impossible. Il y a deux personnages importants qui interviennent dans ce discours-là. Il y a notamment une certaine Lydia Jäger, qui est une docteure en sciences croyante, et il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez déjà entendu parler, qui est un scientifique de haut niveau, qu'on appelle Étienne Klein, qui est professeur à Sorbonne en physique, et qui dit des choses que nous pouvons appréhender. L'une est croyante, l'autre ne l'est pas. Mais il m'a façonné, ce Étienne Klein, en disant, écoutez bien, je ne suis pas croyant, parce que je n'ai pas la foi. Et cette foi, je crois que c'est une grâce. Et je n'ai pas eu cette grâce. Vous voyez, comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui apparemment ne connaissent pas Dieu, savent que c'est une grâce d'avoir la foi. Est-ce que vous savez que c'est une grâce du fait de connaître Dieu? Je le remercie tous les matins de savoir que j'existe et que c'est par son pouvoir que je peux exister et voir un nouveau matin et voir de nouveaux enfants et de nouveaux petits-enfants et de nouveaux arrière-petits-enfants là, dont on se réjouit chaque fois de les voir et de voir leur mimique et de suivre un petit peu leur évolution. On en parlera par la suite. Alors, ces personnes s'interrogent, aussi bien les croyants que les incroyants, mais qu'il y a eu un Big Bang. Non, il n'y a pas eu de Big Bang. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de Big Bang? Mais c'est un mot qui est courant dans le langage des scientifiques et même des chrétiens pour nous dire qu'il y a eu un commencement. Mais un Big Bang, ça veut dire une explosion infinie. Est-ce que notre Dieu a besoin d'une explosion de grande ampleur, big, ça veut dire grand, pour faire apparaître des choses qui n'existaient pas auparavant? Et on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi est-ce que notre Dieu a décidé de démarrer une création à un moment donné, qu'il a choisi lui, puisqu'il était de toujours? Je suppose que vous expérimentez, vous avez expérimenté ou déclaré que notre Dieu est infini, qu'il n'a pas de commencement ni de fin. On dit qu'il y a beaucoup de mystères dans la vie et dans la parole de Dieu, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et j'ai vu cette réflexion qui m'a paru intéressante. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, mais devant lequel on contemple. On contemple un mystère sans pouvoir jamais l'expliquer. Un commencement d'une durée comme Dieu l'a voulu, qui a eu une certaine existence pendant 6 jours pour nous, lui dit la Bible, 6 périodes, point d'interrogation, vous répondrez-vous selon vos conceptions ou selon ce que vous connaissez de ce que notre Dieu nous dit ou ce que les scientifiques disent. Il y a tellement de choses à dire sur ce point de départ. Notre Dieu a fait les cieux et la terre, les galaxies. La science nous dit qu'il y en a 200 millions de galaxies. Et la nôtre, celle qui concerne la terre, elle a 200 millions d'étoiles. On nous fait le compte de la grandeur de notre Dieu. Ça nous donne de petites idées, ce que la science nous révèle. Il y a des limites dans la compréhension de la science. Elle ne peut pas tout expliquer. Ce que je vous ai mis là, mes chers amis, le mur de Planck, je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler parce que qu'est-ce que c'est qu'un mur? C'est quelque chose qu'on ne peut pas traverser, a priori. Et c'est Planck qui l'a trouvé. Planck, c'est un physicien des siècles passés et qui a trouvé que la science expliquait tout ce qui pouvait être expliqué de la création à partir d'un moment qu'il a situé à 43 nanosecondes. Imaginez, à une fraction de seconde, à un milliardième de seconde, multiplié par 43. Jusque-là, la science peut tout expliquer. Au-delà, c'est impossible. La science, c'était. Et je vous rapporte une réflexion qui a été faite par Jean-Paul II, mais qui a eu une discussion avec un grand scientifique. Vous connaissez peut-être Stephen Hawking, qui est décédé, c'est quelqu'un de très grand, du point de vue de la science. En conclusion, c'est le pape Jean-Paul II qui a dit « Si je comprends bien, monsieur le physicien, avant 43, c'est nous qui intervenons, et après 43 nanosecondes, c'est votre problème. » Il y a aussi des distances qui sont remarquables. La distance Soleil-Terre, pourquoi est-ce que le Seigneur a trouvé qu'il s'agissait de 150 millions de kilomètres qu'il fallait situer le Soleil, qu'il a créé le quatrième jour, et la Lune? Autrement dit, le quatrième jour apparaît seulement les astres qui nous permettent de situer les semaines et les mois et les années. Donc nous ne pouvons pas parler de jour de 24 heures avant le quatrième jour, a priori, puisqu'il n'y a pas le soleil ni la lune. Oui, encore un indice qui nous permet de réfléchir autrement que de dire l'Éternel a créé les cieux et la terre et tout le reste en 6 fois 24 heures. Et en plus, il fallait cette distance-là de 150 millions de kilomètres et une température de 6000 degrés au soleil, pour le soleil, pour ce qui se passe dans les... ce que le soleil consomme. Ce qu'il faut savoir aussi, que c'est la transformation de l'hydrogène en hélium, c'est en brûlant l'hydrogène que les rayons du soleil émettent ce rayonnement qui nous favorise, peut-être pas pour le moment. Mais en tout cas, comme notre Seigneur est grand, nous chantons quelquefois avec cette cantique grand Dieu, nous t'adorons. Mais nous avons chanté Dieu Tout-Puissant. C'est quelque part la grandeur de Dieu que j'aurais souhaité que nous découvrions encore davantage. Quelque chose de sa grandeur infinie, quelque chose de sa grandeur, et pas seulement pour la création, mais pour les créatures que nous sommes. Est-ce que nous réalisons que nous avons affaire à un grand Dieu? Un grand Dieu qui guérit, un grand Dieu qui soulage, un grand Dieu qui vient, qui nous aime. Et tout est là-dedans, tout est dans son amour pour nous, qui nous a manifesté d'une manière extrême en nous donnant Jésus. Et Jésus qui a donné sa vie pour moi, pour nous acquérir pour Dieu par son sang. C'est un verset de la Bible. Je n'ai pas résisté à vous présenter cette constante-là, qu'on appelle la constante de structure fine, qui intéresse une des quatre forces, c'est-à-dire la force électromagnétique. La force électromagnétique, c'est celle qui vous permet de faire fonctionner tous vos appareils électriques. Il y a quatre forces, notamment la force de gravitation dont a parlé Einstein, puis il y a la force électromagnétique qui est celle-ci, dont nous parle ce coefficient-là, et puis les deux forces, une force atomique faible et une force atomique forte, ce sont les quatre forces dont Le physicien s'occupe. Nous avons juste parlé de ça. Pourquoi est-ce que j'ai voulu monter ça? Elle m'a tellement fasciné que je l'ai utilisé de mémoire. 0,00 72 97 25 35 6. Tu veux ça? Pourquoi? Parce que si la 11e décimale était un 5 au lieu d'un 6, l'univers s'effondre. Et si tu étais un 7 au lieu d'un 6, la 11e décimale, l'univers explose. Qui est-ce qui a manifesté ces 11 décimales-là? À la 11e décimale près? Est-ce qu'on peut discerner, les amis, une grandeur de Dieu au travers de ces éléments-là? Pardon de vous emmener un petit peu dans mes fantasmes physiques, hein, mais je crois que vous retiendrez aussi ça, la grandeur de Dieu dans sa création. Je viens de vous parler d'une constante de l'univers qui est la constante de structure fine. Une révélation quotidienne de moindres faits et gestes de ce qui est convenu d'appeler un être vivant, qui devient un homme avec un tel patrimoine d'inconnu, avec tout ce que cela comporte d'inouï, et que, in fine, tout finisse par disparaître, même en laissant pour un temps une très longue et une belle histoire, je vais parler de l'histoire humaine, et que l'on soit contraint de constater que tout cela n'a aucun sens, il faudra beaucoup de foi pour croire qu'une telle aventure s'achève comme une vapeur sans lendemain. Non, mille fois non, il faudra inventer autre chose. Vous êtes d'accord aussi que la vie a un sens. Et si votre vie n'a pas de sens, venez à Jésus. Il a défini une existence et un sens à la vie de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Si vous ne croyez pas, venez à lui et il vous montrera qu'il a des choses excellentes à vous révéler et à vous faire saisir. Nous pourrions compléter notre sujet par beaucoup d'autres réflexions, mais il faudra que vous finissiez avec Jean-Luc ou avec d'autres, si vous le souhaitez, que nous approfondissions un petit peu certains éléments scientifiques qui nous sont donnés, certains éléments bibliques qui nous sont aussi donnés. Et ça, c'est le rôle des messagers du Seigneur et des serviteurs de Dieu pour étaler devant son Église ce qu'il nous donne comme message à partager pour nous amener à exalter la grandeur de notre Seigneur et de notre Dieu. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés, les amis. À constater la grandeur de Dieu pour lui être davantage fidèle. Mais vous constatez aussi que si vous désirez être fidèle à Dieu, plus vous le serez, un peu comme un Job, plus l'ennemi essaiera de vous attaquer. Plus on est fidèle, Jean-Luc a parlé tout à l'heure de l'Afghanistan, il y a bien d'autres contrées où parler de Jésus ou prononcer le nom de Jésus est une condamnation à mort. Nous parlons que de ce pays du Nord où des chrétiens sont emprisonnés pour leur foi et ils résistent. Quelqu'un qui est musulman et qui vient à Jésus est banni de sa famille. Vous le savez aussi. Mais il tient bon. Comment est-ce que ça se fait que ces personnes qui ont rencontré Jésus ont une telle détermination pour rester fermes dans leur foi? Je reviens au deuxième volet qui est l'origine de l'orgueil. Bien des déboires sont arrivés à ce sujet. Le personnage en question n'aime pas vraiment qu'on parle de lui. Il faut que nous nous fassions une idée précise de ce qu'il est convenu d'appeler l'ennemi public numéro un. À cet égard, considérons celui qui est à l'origine de ce que nous révèle la Bible. Ézéchiel 12, 14, 15 nous dit ceci. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Si Dieu a manifesté sa puissance inimaginable dans le passé, par sa bonté envers les humains, c'est parce que quelque chose est survenu entre Genèse 1, 1, au commencement Dieu créa, et Genèse 1, 2, la terre était informée vide, qui doit d'ailleurs être lu comme tohu bohu. La plupart des théologiens évangéliques pensent que la clé du cataclysme se trouve au chapitre 14 d'Ésaïe, à partir du verset 12 que nous verrons maintenant, si vous voulez bien. Ésaïe 14, 12, comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'en terre, toi qui subjuguais les nations. Tu as dit en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône. Ceux qui fixent leur regard sur toi, au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne d'assignation, au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut, et lion, ça ne lui suffit pas. Il voudrait être plus grand que le Créateur. Toutefois, on t'a fait descendre au Sheol, au fond de la fosse. Ceux qui te voient fixent le regard sur toi, disant, est-ce ici l'homme qui faisait trembler la terre? Ézéchiel nous dit, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfaite en beauté. Tu as été en Éden. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu, citation d'une couverture de pierres précieuses. Ça se trouve dans Ézéchiel un peu plus loin. Il est même ajouté ceci, par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Par l'abondance de ton trafic. L'histoire se répète. Il y a de l'abondance de trafic. On nous parle des oligarques qui veulent agrandir leur territoire. Comme l'histoire se répète. Et qui, poussés par l'ennemi, le meurtrier dès le commencement, n'hésite pas à sacrifier des vies humaines en quantité innombrable. Mais tu as été précipité de la montagne de Dieu. Il est question aussi de notre Seigneur qui a rencontré ce terrible ennemi. Et nous savons que de Jésus lui-même, il a proposé de lui abandonner en échange de ce qui lui avait été confié, tous ces royaumes qui lui avaient été donnés. Si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Tout à l'heure, on a parlé de cela. C'est le diable qui mène la danse. C'est le diable qui mène le bal. Ce diable-là a transporté notre Seigneur sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes et leur gloire, tous les royaumes du monde. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Matthieu 4, verset 8 et 9. Et Luc 4 et 6 ajoute, parce qu'elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Vous avez les références. Luc 4, 6. Elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Combien de chanteurs, notamment, ont réclamé la puissance du diable, la puissance de l'ennemi, pour avoir un aura qu'ils n'avaient pas par eux-mêmes. On le sait très bien, ça. Ils ont péri misérablement, ces pauvres gens qui ont réclamé quelque chose du diable. Une autre étape à les suivre lors de la prédication de l'Évangile, les 70 qui reviennent d'avoir été prêchés comme le Seigneur les a envoyés. Ils reviennent et ils disent, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair devant vous. Le Seigneur voit l'invisible. Ses serviteurs n'ont rien vu, sinon que leur démon était soumis. Mais le Seigneur les a envoyés en leur disant, marchez sur la puissance de l'ennemi et guérissez, faites du bien aux créatures qui souffrent. Dans l'Apocalypse, le disciple Jean, ou l'apôtre Jean nous dit ceci, que finalement Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Dieu a jugé suffisant cela pour nous permettre de comprendre le chaos de Genèse 1-2. Mais quelle est la réponse divine? Le serpent ancien, le séducteur, le menteur, le destructeur, le malin, a osé attribuer à notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'il était lui-même, le séducteur, en faisant dire à la foule, il séduit les foules. C'est lui le séducteur, pas le Seigneur Jésus. Même ces dignitaires religieux de l'époque ont osé dire, il nous souvient que ce séducteur, quand il était encore en vie, a dit « Je ressuscite dans 3 jours ». Alors que le Seigneur, le Fils unique du Père, l'homme Christ Jésus, Dieu fait homme, soulageait les miséreux, guérissait les malades, de quelque maladie qu'ils aient, grave ou bénigne, tous le glorifiaient pour son pouvoir, jusqu'à ressusciter les morts. Lui, le prince de la vie, rendait à sa mère, une mère veuve, un fils unique qu'on transportait vers le cimetière. Le Seigneur a ressuscité Lazare, qui était dans un sépulcre depuis 4 jours. La puissance du Seigneur Jésus a vaincu la mort. Et il a donné des échantillons avant de mourir lui-même. Et sa mort a déterminé le bonheur que nous pouvions espérer recevoir de sa part, parce que c'est par la vie de Jésus que nous avons la vie et que nous avons la vie éternelle. Non, Satan, tu n'auras pas le dernier mot. Même si une apparente victoire est accordée, comme annoncé en Genèse 3, et c'est encore un texte qui est controversé, parce qu'il nous est dit la semence de la femme te brisera le talon. Et toi, la semence de la femme, Christ, t'écrasera la tête. Et il nous a même dit, parce que nous sommes disciples du Seigneur Jésus, en Romains je crois, que l'éternel Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il sera écrasé par la puissance de Jésus-Christ. Il sera écrasé par la puissance des chrétiens. Restons chrétiens, mes amis. Restons fermement attachés à notre Sauveur et Maître. Vous verrez qu'il fait de grandes choses encore. Golgotha. Oui, le talon du Seigneur Jésus a été brisé. Notre Seigneur bien-aimé à Golgotha a été arrêté dans son chemin. Mais redoublons de vigilance. quoi qu'il nous en coûte. Mettons tout notre zèle à nous soumettre à Dieu. Une paix inouïe nous est assurée. Une récompense grandissante est promise. Puissent tous ceux qui rejoignent le Seigneur dans sa crucifixion résister à l'ennemi, à la suite du Seigneur Jésus, et avec l'aide de notre Sauveur, démontrer que son pouvoir ne les influence plus. Ce n'est pas facile de rester fidèle au Seigneur. Ce n'est pas facile de respecter tous ces cinq commandements. Quelques-uns se laissent induire par lui et sont vaincus par cet ennemi. Et il n'y a que la puissance du Seigneur Jésus lorsqu'on s'est laissé avoir dans un piège de l'ennemi pour pouvoir s'en sortir. Fuyez les convoitises du diable, soyez sobres, veillez. Nous est-il dit dans l'Écriture, votre adversaire le diable comme un lion rugissant. Il a été question tout à l'heure du lion de Juda qui a vaincu le Satan. Ce lion rugissant qui rôde autour de nous, qui nous accuse nuit et jour. C'est mis dans l'Écriture ça. Il nous accuse, ce Satan, ce diable, cet adversaire. Diabolos, accusateur. Satan, adversaire. Quant au sort éternel qui est réservé pour le diable et ses anges, c'est d'être précipité dans les temps des feux, nous en avons parlé tout à l'heure, embrasé par le souffle qui est la seconde mort. Nous citons Apocalypse 20, chapitre 20, verset 10, réservé à tous ceux aussi qui auront refusé, après de multiples appels de la grâce de Dieu, de ce Dieu d'amour qui veut aujourd'hui encore que tous les hommes soient sauvés. Quel que soit le prix à payer pour renoncer à toute forme de mal, venez à Jésus qui accorde une vraie liberté. Il est seul capable de faire sortir du piège dans lequel, hélas, quelquefois, certains croyants se sont laissés enfermer. Bien, chers amis, tout est une question de foi. Alors, permettez-moi, en terminant, de vous donner quelques conseils de la parole de Dieu. Croire que nous sommes crucifiés avec Christ et le vivre. Croire que nous sommes crucifiés avec Christ et le vivre. Réaliser que nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes déjà ressuscités en Christ. Peut-être bien difficile à réaliser, ça, que nous sommes ressuscités en Christ. Parce que nous avons toujours sur nous cette enveloppe où l'apôtre Paul disait que qui me délivrera de ce corps de mort. Parce que sans cesse, je suis attiré vers la séduction. Maintenant est venu le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait, je le disais à l'instant, jour et nuit. C'est un texte de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. A été précipité. Il a été précipité. Eux l'ont vaincu à cause du sort de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, est-ce que nous pouvons considérer la bonté de Dieu et sa sévérité? La sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés. La bonté de Dieu à l'égard, à ton égard, si tu persévères dans cette bonté, Romains 11, verset 22. Quand on comprendra que notre Dieu veut nous amener à des sommets, tandis que le but de l'ennemi est de nous amener toujours plus bas, alors le choix sera vite fait. Quel sera le mien? Quel sera le vôtre? En parlant de l'énergie que le Seigneur nous donne pour nous élever vers le niveau où le Seigneur désire nous entraîner, ce sera tellement plus enviable de faire ce choix incontestable de nous laisser élever par le Seigneur si nous nous abaissons nous-mêmes. Le Seigneur nous demande de nous abaisser. Il nous élèvera. Le Seigneur nous demande beaucoup d'humilité. Alors le Dieu de l'orgueil ou le Dieu de l'amour, le Dieu de l'amour, de la vraie grandeur, quel sera notre choix? Et je cite in fine un verset de cantique que nous chantions autrefois. Seigneur, quand de toi je m'approche, mon cœur ne connaît plus d'effroi. Ta grâce est une haute roche, un refuge assuré pour moi. Tu m'as Jésus pris dans tes bras. Satan ne m'en ôtera pas.